OK, on va commencer notre 11e leçon dans la série « Le péché, les 10 commandements, la grâce ». Alors aujourd'hui, on va regarder la perfection de la loi morale. Alors dans nos prochaines leçons, on va continuer d'étudier les aspects généraux de la loi morale. L'étude de chacun des 10 commandements en particulier se fera ensuite. Alors j'ai utilisé l'ouvrage intitulé « Moral Law » du pasteur, auteur et théologien baptiste, le Dr. Ernest Kevin, qui a vécu entre 1903 et 1965, que plusieurs considèrent comme étant une grande autorité mondiale sur le sujet de la loi morale. Et il fut également le premier président de l'école biblique London Bible College à Londres, en Angleterre. Et cet homme-là est recommandé chaleureusement par feu le pasteur baptiste Ernest Risinger, qui est un ardent défenseur de la loi morale lui-même et de sa place dans la vie du chrétien, et aussi par le pasteur et théologien Joel Bickey, qui est président et professeur de théologie systématique à l'école biblique Puritan Reformed Theological Seminary. Il est aussi pasteur de l'église Heritage Netherlands Reformed Congregations à Grand Rapids, au Michigan. Il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages sur les puritains et d'autres sujets. En fait, c'est, je dirais, l'autorité mondiale en termes de connaissance des puritains. Il a publié deux livres, Meet the Puritans et un autre, je ne me souviens plus du titre, là, qui présente les principales doctrines que les puritains ont développées au cours des siècles. Deux briques. C'est un homme qui écrit beaucoup, très connu aux États-Unis, un conférencier en très grande demande. Donc, c'est une personne qui est très estimée dans les milieux réformés aux États-Unis. Alors, le premier point qu'on va regarder, c'est la place de la loi morale dans la vie du croyant, les principes à respecter pour nous guider. Alors, l'auteur que je vous parlais tantôt, Dr. Kevin, Ernest Kevin, commence son livre en disant que si on veut bien comprendre le rôle de la loi morale dans la vie du chrétien, il y a certains principes de base qu'on se doit de respecter si on veut avoir une interprétation correcte. Sinon, on risque de déraper. Alors, l'étude de la place de la loi morale dans la vie du chrétien n'est pas sans difficultés. Mais ces difficultés sont dues en grande partie à l'absence d'attention à certains principes qui doivent nous guider dans notre exposition de cette doctrine. Alors, ce qu'on va faire, on va examiner ces principes-là. La première chose, le premier principe à tenir compte, c'est bien entendu la terminologie, la signification du mot « loi ». Quand on regarde dans les Écritures, le mot « loi » ne veut pas toujours dire la loi morale. Parfois, ça peut vouloir dire d'autres choses. Alors, la terminologie, c'est un des principes qu'il faut tenir compte. Autrement dit, on ne peut pas prendre un verset quelque part puis dire « ça dit la loi » et de dire ça parle automatiquement de la loi morale. Il faut faire attention, il faut regarder le contexte. Si on ne fait pas ça, on dérape, ça c'est sûr et certain. Alors la terminologie, c'est une des choses à tenir compte, un des premiers principes à tenir compte. Parfois, le mot « loi » dans les Écritures veut dire une partie de l'Ancien Testament. Alors quelquefois, le mot est utilisé pour désigner une partie de l'Ancien Testament. Par exemple, lorsque le Christ demande aux Juifs dans Jean 10, 34, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? » Alors il fait référence au psaume 82, verset 6, qui dit « J'ai dit vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut » dans la version Osterval. Alors quand on regarde ça, il dit « Il est écrit dans votre loi » et le bout du verset qu'il cite est trouvé dans les psaumes. Donc parfois le mot « loi » veut dire une partie de l'Ancien Testament. D'autres fois, il veut dire tout l'Ancien Testament. Parfois, le mot veut indiquer tous les livres de l'Ancien Testament. Voyons quelques exemples. Matthieu 7, verset 12 dit, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Un autre exemple, Luc 16, 16 dit, « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de la lettre de la loi vienne à tomber. Alors ici, c'est Christ qui parle, et dans le contexte, on voit qu'il fait référence à l'ensemble de tout l'Ancien Testament. Parfois, ça fait référence à une partie de l'Ancien Testament, parfois ça veut dire tout l'Ancien Testament. Et parfois, le mot « loi » fait référence aux aspects cérémoniels de l'adoration dans l'Ancien Testament. Par exemple, quand on lit dans Hébreux, chapitre 10, verset 1, en effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Alors ici, on parle des sacrifices que les Juifs faisaient dans le système judaïque. Alors on fait référence à des choses qu'on ne fait plus aujourd'hui, mais qui sont... Les aspects cérémoniels de l'adoration dans l'Ancien Testament, mais qui ont été annulés, abrogés par Christ. Alors, on voit aussi que parfois la loi veut dire Dieu qui s'est révélé lui-même aux Israélites. Jean, chapitre 1, verset 17, ça dit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et aussi, des fois, ça veut dire, le mot « loi » est utilisé comme une description des Juifs dans leur condition sans Christ. On voit, par exemple, dans Romains, chapitre 3, verset 19, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Dans Galates, chapitre 3, verset 10, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Galates, chapitre 4, verset 21, « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? » Alors, ces différents sens du mot « loi » nous montre que tout argument qui est apporté contre la loi morale doit d'abord préciser le sens du mot dans les versets qu'on cite. Disons qu'on veut amener des arguments contre l'usage de la loi morale dans la vie du chrétien et qu'on utilise un verset. Bien sûr, il faut savoir dans le contexte à quelle loi on fait référence. Sinon, on peut faire dire toutes sortes de faussetés aux Écritures. Donc, le premier principe, c'est vraiment la terminologie, et on pourrait aller beaucoup plus loin dans les différentes façons que les Écritures utilisent le mot « loi ». Alors, je pense que la chose à retenir comme principe, c'est de faire attention. Le mot « loi » ne veut pas toujours dire la même chose dans tous les versets des Écritures. Alors, normalement, qu'est-ce qui fait qu'on peut déterminer la signification du mot « loi » dans un passage? Normalement, c'est le contexte. Alors, la deuxième principe, c'est la nécessité de comprendre qu'il n'y a pas de contradiction entre faire une chose par amour et la faire par obéissance à la loi morale. Alors, il y en a qui veulent mettre en contraste l'amour et l'obéissance. Autrement dit, ils disent, les chrétiens, aujourd'hui, n'ont plus à obéir à la loi parce que c'est quelque chose qui nous contraint, tandis qu'aujourd'hui, on fait les choses par amour. Faire une opposition entre l'amour et la loi morale, c'est un faux principe, un principe qu'on ne doit pas conserver. On apporte parfois l'argument que l'obéissance à la loi morale met le croyant dans un état d'esclavage, alors qu'il devrait être motivé par l'amour et qu'il n'a plus besoin de loi. Ce genre d'argument est fallacieux. Prenons l'exemple d'Adam avant sa chute, qui obéissait par amour et également parce qu'il avait reçu un commandement de Dieu. Donc Dieu lui avait donné le commandement de ne pas manger de l'arbre du fruit de la vie. Et alors il avait reçu un commandement et il le faisait quand même par amour. Les anges aussi obéissaient par amour, mais ils avaient aussi des commandements de Dieu. Sinon, les anges apostats n'auraient pas pu pécher. L'exemple suprême est le Christ lui-même qui était sous la loi et qui l'a accompli par amour. Faire une chose parce qu'elle nous est commandée n'implique pas nécessairement l'absence d'amour. Alors, c'est un autre principe à tenir compte. Le troisième principe, la parfaite obéissance de Christ à la loi pour la justification des pécheurs n'exempte pas le croyant d'obéir à la loi pour des fins autres que la justification. Autrement dit, ça, c'est un principe extrêmement important. On ne peut pas utiliser la loi pour se justifier nous-mêmes. Autrement dit, d'avoir la même attitude que les pharisiens de l'époque avaient, comme Paul, avant sa conversion, qui croyait qu'il était capable d'obéir à la loi et de se réconcilier avec Dieu par ce moyen-là. Ça, c'est complètement exclu. Mais tout ça, ça ne veut pas dire que le Christ ayant parfaitement obéi à la loi pour nous justifier, ça exclut l'idée d'utiliser la loi pour des fins autres que la justification. Alors, la justification, c'est une des vérités fondamentales de l'Évangile que l'homme ne peut offrir à Dieu ses bonnes œuvres comme base de sa justification. Et le quatrième principe, c'est que la loi morale ne peut être rejetée parce que l'homme n'a pas le pouvoir de la garder. Alors, il faut se rappeler que l'homme n'a pas non plus le pouvoir d'obéir à l'Évangile. Le commandement de croire est aussi impossible que celui d'obéir à la loi morale. L'absence de la capacité n'implique pas l'absence d'obligation. Ça, c'est un principe extrêmement important. Donc, ils vont dire, on ne peut pas lui obéir, donc, à quelque part, ça nous enlève notre obligation. C'est un peu comme quelqu'un qui s'achète un automobile flambant neuve, puis qui a un accident, puis que là, il dit, puis qu'il est blessé, puis qu'il n'a plus d'argent pour payer. Puis là, il va dire à la compagnie, j'ai plus d'argent pour payer, alors ça me dégage de mon obligation. Est-ce que ça marche comme ça dans les choses humaines? Ça ne marche pas comme ça dans les choses humaines, même si ton char est complètement brisé, même si ta santé ne te permet plus d'avoir des revenus, tu dois quand même de l'argent à la compagnie. Alors, c'est ça, dans le fond, c'est ce principe-là qu'on est en train de dire. L'absence de la capacité n'implique pas l'absence d'obligation. Autrement dit, on est quand même obligé d'obéir parce que Dieu le commande, même si, à quelque part, à cause de la chute et de la faiblesse de l'être humain, on n'est pas capable de l'accomplir. Le deuxième point qu'on va regarder, la loi morale est bonne. La loi morale est bonne parce que la Bible l'affirme. 1 Timothée chapitre 1, verset 8, « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. » Et vraiment, la clé d'interprétation est vraiment dans la deuxième partie, « pourvu qu'on en fasse un usage légitime. » On a vu qu'est-ce qui serait un usage légitime. Qu'est-ce qui serait un usage illégitime? Un usage illégitime, ce serait de croire que les 10 commandements, j'ai la capacité de leur obéir et que durant toute ma vie, j'ai plus, je suis capable de l'obéir et c'est par ça que je me réconcilie avec Dieu. Ça, c'est un usage illégitime. Mais un usage légitime, c'est que après qu'on est sauvé, on a quand même un devoir envers Dieu de l'obéir à sa loi. Et on va voir les différentes raisons tantôt pourquoi le Seigneur a donné sa loi tant aux inconvertis qu'aux convertis. Il ne les a pas donné pour les mêmes raisons, mais on va les voir tantôt. Alors, elle est bonne dans son contenu. Il est bon d'aimer Dieu et de lui faire pleinement confiance. C'est précisément ces choses qui sont commandées dans la loi morale. Tout ce qui est bon pour l'homme est résumé dans la loi morale et rien de ce qui peut être conçu comme étant bon n'y est pas contenu. Donc, elle est bonne dans son contenu. Elle est bonne dans son autorité, deuxièmement. C'est l'autorité de Dieu qui fait qu'elle lie tous les hommes. Son autorité vient de ses perfections infinies, la bonté de Dieu, sa sainteté, sa justice, sa sagesse, sa vérité, son amour, et on pourrait prendre l'ensemble de chacun de ses attributs et les mettre à la suite. Dans le fond, pourquoi la loi a de l'autorité? Parce que Dieu a toutes ces qualités-là et il les a à la perfection. Donc, à quelque part, ça lui donne une autorité très grande. Donc, l'obligation qu'ont les hommes envers la loi morale est éternelle et immuable. Elle est bonne aussi dans son usage. La loi morale a un double usage. Le Saint-Esprit l'utilise comme instrument de conversion des pécheurs et comme un moyen de stimuler le cœur du croyant à accomplir son devoir. Donc, à quelque part, quand quelqu'un est convaincu de péché, la loi dit que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Quand on évangélise, il n'y a pas de meilleur moyen pour amener quelqu'un à reconnaître qu'il est un pécheur que de l'amener à la loi morale, aux 10 commandements, parce que c'est elle qui nous révèle qu'on est des pécheurs. Alors, une évangélisation sans loi, c'est une évangélisation qui est boiteuse. Donc, dans son usage, le psaume 19, versets 7 à 11, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. » On a aussi dans le psaume 119, versets 92-93, « Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. » Alors, quelques-uns objectent à cette vérité en disant que le mot « loi » dans ces passages ne réfère pas toujours aux 10 commandements de Dieu, mais qu'il fait référence plus largement aux enseignements de la parole de Dieu en général. Ceci est vrai, mais cette admission n'exclut pas les injonctions de la loi morale parce qu'ils sont les plus importantes de toutes les injonctions. Donc, elle est bonne dans son contenu, dans son autorité, dans son usage, mais la quatrième chose, elle est bonne dans ses sanctions. Alors, les sanctions sont des confirmations et des promesses de Dieu. Nous pouvons en voir dans le deuxième et dans le cinquième commandement. Par exemple, dans le deuxième commandement, Exode 20, versets 4 à 6, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Donc ici, il y a comme une bénédiction qui est rattachée à l'observation de la loi, de la miséricorde. Non seulement de la miséricorde dans ta propre vie, mais de la miséricorde pour des générations. Alors quand on est un chrétien, qu'on observe la loi, il y a des bénédictions qui sont rattachées à cela, même sur des générations à venir. Autrement dit, sur nos enfants, et sur nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants, etc. 1000 générations, c'est beaucoup, là. Alors, on voit aussi dans Exode, chapitre 20, verset 12, ce qui fait référence au cinquième commandement, qui nous dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Quelqu'un qui obéit au cinquième commandement d'honorer son père et sa mère, et par la même occasion, les autorités, le Seigneur dit ici que ça va amener une prolongation des jours. Donc, c'est une bénédiction qui est rattachée à l'obéissance de la loi. Et on se souvient qu'on avait vu que dans le Nouveau Testament, Paul lui-même utilise l'argument en disant « Car c'est un commandement, honore ton père et ta mère, car c'est un commandement auquel est rattachée une promesse. » Alors, quand on dit « elle est bonne pour ses sanctions », parce que dans ses sanctions, dans on a dit que c'était le deuxième, il y avait de la miséricorde. Dans le cinquième, il y a une prolongation des jours. Cinquièmement, elle est bonne dans ses fonctions. Ces fonctions incluent la déclaration de ce qu'est la volonté de Dieu. Si on veut savoir c'est quoi la volonté de Dieu, on a juste à aller dans les 10 commandements, on va la trouver. Le commandement d'obéissance à cette volonté, donc on trouve la volonté de Dieu qui y est révélée, et on trouve aussi que Dieu nous commande d'obéir à cette volonté-là. Et aussi, on trouve la fonction d'une invitation par une promesse. Quand il nous dit « Honore ton père et ta mère, parce que tes jours se prolongeront », il y a une promesse qui est rattachée à l'obéissance. Et aussi l'obligation par l'avertissement, parce que certains commandements vont donner un avertissement que si on ne fait pas telle chose, on s'expose à des sanctions. Et la dernière, c'est la condamnation des transgresseurs. Alors, les fonctions de la loi morale sont bonnes en elles-mêmes et ne peuvent être confinées à son aspect de condamner le transgresseur. Donc, elles sont bonnes en elles-mêmes. C'est pas juste la question qu'elle condamne, aussi la question qu'elle contient d'autre chose qui est vraiment désirable. Et sixièmement, elle est bonne dans sa fin. Son but est de conduire à Christ et elle trouve en lui, en Christ, son accomplissement. Romains chapitre 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et dans Galates chapitre 3, verset 12. Verset 24, excusez, c'est parce qu'il y a une petite erreur. C'est là. On va corriger ça. C'est 3, 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Alors, les Écritures sont claires ici dans Galates 3, 24. La loi nous a été donnée comme un professeur pour nous conduire, pour nous enseigner quoi? Que ses exigences sont tellement profondes que Christ n'est pas capable de... que les êtres humains ne sont pas capables de lui obéir à la perfection. Il nous conduit à Christ parce que Christ nous montre que, dans le fond, les deux côtés de la loi... L'obéissance active, l'obéissance passive. Autrement dit, la punition qui est rattachée à la loi, on n'est pas capable de la supporter. Parce que l'éternité elle-même ne suffira pas pour que un pécheur puisse supporter la punition de Dieu. Et il n'y a aucune personne qui est capable de l'accomplir. Alors, pourquoi un pédagogue, c'est la loi est comme un professeur pour nous montrer que les exigences de Dieu sont tellement élevées qu'on ne peut pas les accomplir et la punition que Dieu rattache à toute désobéissance ou à toute transgression est tellement grande que même l'éternité ne suffira pas pour payer. Alors, le pédagogue, c'est vraiment la loi a pour but de nous conduire à Christ. Elle nous conduit à Christ pour nous montrer que lui... Il l'a accompli à la perfection de notre place et que lui a subi le châtiment qui aurait dû être le nôtre à notre place encore. Alors, c'est dans ce sens-là qu'elle est un pédagogue. Alors, troisième point qu'on va regarder aujourd'hui, la loi morale, c'est but. Alors, la loi morale a deux buts, pour l'impie et pour le croyant. Autrement dit, elle a un but pour les incroyants, mais elle a un but aussi pour les croyants. Pour l'impie, elle a deux buts. Premièrement, restreindre le péché et deuxièmement, condamner le pécheur qui est un transgresseur. Nous qui avons un arrière-plan catholique, on sait très bien que la loi, le décalogue était souvent prêché par l'Église catholique et qu'elle avait quand même une certaine influence sur la vie morale des gens au Québec. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'avais 8-10 ans. Pourquoi on ne faisait pas telle chose? Parce qu'on avait l'effet restreignant de la loi. La loi, c'était quelque chose d'extérieur. On n'obéissait pas parce que... On obéissait par crainte de Dieu, puis c'était correct. Alors, elle a deux buts pour l'impie. Premièrement, restreindre le péché, puis elle avait cet effet-là. Pourquoi que le péché n'était pas complètement... Il y avait un laisser-aller complet et total... parce qu'il y avait une influence de la loi sur la vie extérieure des gens. Et le deuxième but pour l'impie, c'est vraiment de le condamner comme transgresseur. Alors, la loi morale a une certaine efficacité pour restreindre le péché comme moyen pour amener à une certaine conformité externe à ce qui est juste. Par son instruction positive et ses avertissements solennels, elle garde l'homme de s'enfoncer de plus en plus dans le mal. C'est cet aspect de la loi morale qui a amené l'apôtre Paul à affirmer, par exemple, dans Galates chapitre 3, verset 19, et j'ai pris la version Sterval, « À quoi donc sert la loi? Elle a été ajoutée à la promesse à cause des transgressions jusqu'à la venue de la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle fut donnée par le moyen des anges et par l'entremise d'un médiateur. » Le deuxième but concernant le pécheur est de le condamner à cause de ses transgressions. Autrement dit, aujourd'hui, pourquoi quelqu'un qui n'est pas réconcilié avec Dieu va être condamné? C'est parce qu'il a manqué des milliers, peut-être des millions de fois, aux exigences de la loi, aux commandements de Dieu, dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses actions, dans ses omissions, dans ses fautes secrètes. Et tout cela est rattaché à une punition qui est l'enfer éternel. Galates chapitre 3, verset 13, ça dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. » Il parle ici des croyants. « Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit et quiconque est pendu au bois. » Donc on vient de voir pour l'impie pourquoi la loi morale a été donnée. Là, les deux buts, donc, restreindre le péché et le condamner comme transgresseur. Maintenant, pour le croyant, la loi morale, le décalogue ou les 10 commandements, c'est toutes des, ou les 10 paroles, c'est tous des termes. Alors, c'est bon de se familiariser avec les différentes façons d'appeler la même chose, des synonymes, la loi morale, le décalogue, les 10 commandements de Dieu. Alors, pour le croyant, elle a 4 buts. Premièrement, de stimuler sa résistance au péché. Deuxième but, de révéler sa corruption intérieure. Il n'y a pas de meilleur moyen pour révéler ta corruption. C'est comme un miroir. Elle commande des choses, elle nous défend des choses, et ça nous montre jusqu'à quel point on est corrompu intérieurement. Troisièmement, de détruire les prétentions à la justice propre. Autrement dit, ça c'était le cas de Paul, qui croyait que, ah, OK, moi, je suis un pharisien et j'obéis à la loi durant toute ma vie. Il croyait cela avant d'être sauvé. Mais à partir du moment où Dieu l'a sauvé, là, il a compris que les exigences de la loi allaient beaucoup plus profondément que juste dans une obéissance extérieure à la loi. Ça allait jusqu'à les pensées, comme quand Christ le mentionne dans le sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7, vous avez appris qu'il a été dit, et il dit, mais moi je vous dis que quiconque a... Alors c'est vraiment pour... Alors ça nous détruit nos prétentions à la justice propre. Dès que quelqu'un est sauvé, il comprend qu'il ne peut pas s'être auto-justifié par l'obéissance au décalogue. Alors ça détruit complètement notre capacité, notre supposée capacité d'obéir parfaitement aux exigences de Dieu qui sont exprimées dans les 10 commandements. Et quatrième but de la loi morale pour le croyant, d'accroître son estime de Jésus-Christ. Bien entendu, plus quelqu'un va comprendre la profondeur des exigences de la loi, plus quelqu'un va comprendre la condamnation extrêmement sévère qui est rattachée à toute transgression. Bien entendu, quand on comprend que Christ a accompli à la perfection la loi morale, et que non seulement il accomplit la loi morale, mais qu'il a aussi subi le châtiment qui était rattaché à toute transgression pour ses élus, bien entendu, à ce moment-là, la loi, elle a pour effet de nous faire d'accroître notre estime de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Même s'il est vrai que la loi n'est pas faite pour le juste, comme on peut le lire dans 1 Timothée 1, verset 9, il demeure qu'aucun chrétien n'est parfaitement juste dans sa vie de tous les jours. Il doit confesser quotidiennement la faiblesse de son amour de Dieu et les choses saintes. La loi morale, en lui commandant des devoirs, stimule le croyant à résister au mal et à poursuivre ardemment la piété. Romains 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais j'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». La loi morale est un miroir dans lequel le croyant a la permission de se voir tel qu'il est. Cela l'amènera à avoir un grand sens de sa culpabilité et de son besoin d'humilité. Encore dans Romains 7, versets 22 à 24, Paul dit « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Il n'y a pas de meilleure façon pour amener l'homme à voir sa pauvreté spirituelle et sa culpabilité que de lui montrer les exigences strictes, profondes et étendues des 10 commandements de Dieu. On voit dans Romains 7, 25 et Romains 8, 1, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Et Romains 8, 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Alors la loi morale débarrasse de façon constante le croyant de toute tentative de justice propre. Alors Philippiens 3, versets 4 à 9, pas verset 49, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, voyez-vous qu'est-ce qu'il disait? Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Et là, dans le verset 7, il fait une déclaration, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Voyez-vous, Paul, il regarde toute sa vie de supposément justice propre dans son passé, puis il dit « Maintenant que je connais Christ, je regarde tout ça comme de la boue. » Alors ça n'a plus aucune valeur. Parce qu'il dit « Maintenant, ma justice, ce n'est pas la mienne, c'est la justice de Christ qui m'est donnée par la foi en Jésus-Christ. » Alors c'est vraiment important de comprendre ces choses-là. Quelles sont les applications qu'on peut faire de cette très brève étude de la perfection de la loi morale? La première, soyons toujours prudents dans notre interprétation en observant les principes qui ont guidé nos théologiens réformateurs, puritains, baptistes au cours des siècles. L'absence d'une saine herméneutique, alors l'herméneutique c'est la science d'interprétation, l'absence d'une saine herméneutique peut nous entraîner dans de très graves erreurs comme l'antinomisme ou d'autres. Deuxième application, sachons faire la différence entre un usage légitime et un usage illégitime de la loi morale. On en a parlé un petit peu au cours de la leçon. Troisièmement, connaissons bien les différents buts de la loi morale, à la fois pour les impies et à la fois pour les croyants. Que notre grand Dieu nous donne d'être fidèles à la vérité, par sa grâce et pour sa gloire.